Eh bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Julie Chaise-Martin.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel. La chronique Art Expo News aujourd'hui se rend hors les murs puisque je me trouve dans la galerie La Ralentie au 22 rue de la Fontaine au Roi à Paris en compagnie d'Isabelle Floch, sa fondatrice et directrice. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors aujourd'hui je découvre dans cette galerie une exposition consacrée à un artiste qui vous est particulièrement cher, Isabelle, qui s'appelle Jacques Roubi. Cette oui. exposition s'appelle Jamais vu. Alors il faut préciser que vous avez déjà exposé à plusieurs reprises cet artiste et que cette exposition doit avoir une dimension peut-être particulière oui. parce que malheureusement Jacques Roubi est décédé il n'y a pas très longtemps, oui. en décembre dernier. Donc évidemment l'exposé aujourd'hui c'est encore autre chose que l'exposé auparavant.
Absolument, c'est tout à fait ça. Puisque c'est la première exposition, je pourrais dire, sans lui, après sa mort. Et j'ai ressenti très fortement la différence qu'il y avait dans mon approche des œuvres et dans le ressenti que je pouvais avoir de ses œuvres à la galerie, avant, c'est-à-dire de son vivant, du temps de son vivant, et après sa mort. Elles m'ont semblé, ça m'a frappé, très nettement un soir, elles m'ont semblé être douées d'une vie autonome, détachée de l'artiste et étant finalement livrée à un futur proche d'une éternité. Comparé, parce que tant qu'il était vivant, les œuvres étaient liées à sa personne, à lui, et à sa temporalité. Donc une fois qu'il a disparu, en fait, l'œuvre s'est mise à vivre autrement. J'étais d'ailleurs très impressionnée, puisque c'est comme si elles avaient intégré une dimension qu'elles n'avaient pas avant. Je dirais sans grands mots qu'elles avaient acquis une dimension que je qualifierais volontiers d'une dimension sacrée. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui les a en même temps tout à fait anoblies. J'étais tout à fait, émue de ça. Je ne les regarde plus de la même manière. Voilà.
C'est très joli ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a l'impression ou on espère tous que l'art a cette vocation. En tout cas, c'est aussi pour ça que l'art nous touche, c'est qu'il y a cette dimension un peu intemporelle qui est liée aux œuvres qui sont évidemment d'abord une création d'un vivant, oui. d'une présence, d'une personne, d'une personnalité même. Et puis ensuite, eh bien, elle continue de vivre et elle garde sûrement en mémoire quelque chose, une trace de l'artiste qui les a créés. Alors, il faut dire que vous avez accompagné Jacques Roubi pendant des années. Vous avez ouvert cette galerie en 2011 à Paris. On est au cœur d'un quartier très vivant, ici. Il vous a finalement contacté assez rapidement après l'ouverture de votre galerie. Comment ça s'est passé?
C'est une question que je me suis posée pendant longtemps, jusqu'à ce que je fasse un recoupement qui est d'ailleurs une interprétation tout à fait personnelle, mais dont je vais vous faire part. En fait, Jacques Roubi a été découvert, donc là, ça m'amène à vous parler de l'origine de la découverte de cet artiste par une grande dame de l'art contemporain qui s'appelait Geneviève Bonnefoy, qui est décédée elle-même il y a 3 ans maintenant. Geneviève Bonnefoy a fondé et dirigé pendant très longtemps l'abbaye de Beaulieu, en Rouergue, dans le périmètre, dans le territoire de création de Jacques Roubi. Et elle a découvert donc Jacques Roubi en 2007, mais avant de fonder l'abbaye de Beaulieu, Geneviève a été pendant longtemps la secrétaire d'Henri Michaud, donc le poète Henri Michaud. Il se trouve que j'ai nommé ma galerie, La Ralentie. Alors, justement, pourquoi ce titre? La Ralentie, c'est le titre d'un poème d'Henri Michaud, justement. Et je me suis dit que, après Geneviève Bonnefoy, Jacques avait peut-être repéré le nom de cette galerie, un nom un peu singulier, comme lui est un artiste d'ailleurs un peu singulier, et que, comme un fil d'Ariane, après Geneviève, c'est-à-dire après donc la découverte de Geneviève Bonnefoy, de ses œuvres, il est suivi ce fil. Voilà, il savait que Geneviève avait travaillé avec Auré Bichot et avait été proche, sa proche collaboratrice, on pourrait dire. Et donc, voilà. Alors, évidemment, hein, c'est une interprétation, puisque je suis parallèlement à ma position de galeriste, j'exerce en tant que psychanalyste, c'est une interprétation tout à fait, entre guillemets, signifiante, on pourrait dire, mais je l'aime bien. Je l'aime bien parce que ça fait un peu sens de ce contact qui en fait, comment dire, a généré une histoire, une amitié, en effet, et une découverte surtout, puisque à mon tour, après Geneviève Bonnefoy, je suis tombée en amour, il n'y a pas d'autre terme, de l'œuvre de Jacques Roubie. Alors, Geneviève l'avait découvert donc en 2007, et il se trouve que Jacques Roubie a un rapport à son œuvre très, très particulier. Il a eu une inondation, il est arrivé une inondation dans son atelier qu'il avait, donc en 2007, qu'il l'avait encore. Il avait un très, très grand atelier hein, qui faisait 350 mètres carrés où il créait toute la journée. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder les images de l'atelier, il y en a sur le site. C'est une sorte d'immense champ de création où il empilait ses œuvres, puisque c'était un monstre de travail. Geneviève avait d'ailleurs écrit un article sur lui où elle se posait réellement la question « Jacques Roubie est-il un monstre ?» en rapport avec sa quantité de production. Et il lui-même disait qu'il avait une production absolument titanesque. Il devait travailler 14 heures par jour. Et il l'a fait pendant 30 ans. C'était quelqu'un qui ne s'arrêtait pas de créer. Ça, c'est très important à dire. Donc, en 2007, il a cette inondation et une bonne partie, je ne pourrais pas vous dire si c'est un tiers ou un quart ou les trois quarts, enfin, sont partis, donc ont été, noyés dans l'eau, détruites, on va dire, et beaucoup de gens sont venus à la rescousse pour essayer de sauver ce qui restait. Bon, il se trouve que Jacques Roubie, à ce moment-là, a été, on va dire, plus ou moins pillé, parce qu'il y a des gens qui sont repartis avec des œuvres sans jamais les ramener, au prétexte de les sauver. Et voilà, alors, ce qui est très caractéristique de Jacques, c'est qu'il avait comme ça, il entretenait donc un rapport, comme je vous le disais, à son œuvre, très étonnant. Il n'a eu de cesse de s'en débarrasser. Alors, évidemment, cette inondation...
Ça signifie quoi, de s'en débarrasser ?
De s'en débarrasser, c'est-à-dire de s'en défaire. Hein, puisque elle devait, si vous voulez, il n'a eu de cesse de produire et, au fur et à mesure, d'essayer, dès qu'il le pouvait, de donner des choses. Hein, alors, de s'en débarrasser, je dis bien, parce que ça lui pesait. En fait, c'est une œuvre qui lui pesait. C'est tout à fait étonnant comme phénomène. Je ne l'avais jamais observé auparavant, donc d'assurer une sorte d'état zéro, c'est-à-dire de table rase, de tabula rasa, toujours, où il pouvait recommencer à créer. Hein, c'est très étonnant. Alors évidemment, l'inondation, il ne l'avait pas programmée, mais il se trouve que le fait que ça lui arrive ne l'a absolument pas déstabilisé. C'est ça.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est presque dans la suite logique, on va dire.
D'aucuns diraient c'était karmique, comme on dit, n'est-ce pas ? Bon, je vous rassure, je n'ai absolument pas, d'interprétation à ce niveau-là, mais il est vrai que c'est tombé sur lui. Bon, il a été exposé, donc avec des œuvres qui restaient de toute beauté d'ailleurs, choisies par Geneviève, qui a eu un véritable coup de foudre pour cet artiste, qui d'ailleurs est parti en croisade à ce moment-là, à Paris, hein, faire savoir qu'il y avait un artiste là qui était tout à fait extraordinaire, qui était menacé, alors dans un premier temps, de perdre son œuvre, mais aussi son atelier, car il n'avait plus du tout les moyens d'assurer le loyer mensuel de ce lieu. Et donc, elle a cherché à de l'aide. Donc, elle a fait beaucoup d'émissions sur France Culture pour en parler. Elle n'a pas réussi à, j'allais dire, à susciter l'intérêt suffisant et pour que les gens puissent, si vous voulez, se solidariser autour de lui et pouvoir lui assurer un lieu correct pour qu'il puisse continuer à créer.
Alors c'est peut-être aussi parce qu'il n'avait pas de galerie ou qu'il était un peu solitaire.
Il était tout à fait, à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'il était dans son coin, dans son village, donc à Souillac.
Il avait déjà un certain âge. Finalement.
Il avait, oui, mais à l'époque en 2007, oui, il avait déjà.
C'était pas un jeune artiste.
Plus de 50 ans. Voilà, non, il était déjà passé la cinquantaine. Alors, l'exposition a eu du succès. Ça lui a, je pense, donné la mesure à lui-même du fait que...
Bah, dans quel endroit, du coup
À l'abbaye de Beaulieu, voilà. L'exposition s'appelait Palimpseste. Alors, palimpseste, pourquoi ? C'est un terme que j'ai repris moi-même plusieurs fois quand j'écris sur Jacques, puisque Jacques avait, donc, dans son affaire de détruire et de recréer, ses œuvres étaient détruites, ou il était payé, ou il donnait, ou bien lui-même détruisait ses œuvres. Alors, il les détruisait, non pas pour les jeter, mais pour les refaire. C'est-à-dire qu'il avait, par exemple, des fusains de toute beauté, et un matin, ça pouvait lui arriver de prendre 3-4 feuilles de fusains, donc des dessins que j'ai vus, qui étaient absolument splendides, et de les agglomérer, donc feuille après feuille, donc, effectivement, de les détruire, pour donner lieu à ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire les fameux cartons sculptés qui sont, je dirais, le fer de lance de l'œuvre de Jacques Roubie.
Alors, quand vous dites fameux, justement, c'est parce qu'il s'est quand même fait connaître, oui, grâce à ça, j'imagine.
Voilà, un peu sur Paris maintenant, grâce donc notamment à Bénédicte Philippe du journal Télérama, qui la première fois qu'elle est tombée sur l'œuvre a eu un coup de foudre et a soutenu tout du long. Donc, le travail de Jacques, grâce à des articles où elle en parlait avec ferveur et très justement, très 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 belle, comment dire, elle a une reconnaissance très forte pour l'artiste, qu'elle a été visitée à Souillac et qu'elle aimait beaucoup. Hein. Voilà.
Alors, ces fameux, ce sont des cartons, c'est quoi
cartons.
Quelle est sa technique ?
Les cartons. Alors, soit ce sont des cartons, c'est-à-dire des cartons bois, ce qu'on appelle des cartons bois assez épais, soit ce sont les palimpsestes, c'est-à-dire des cartons agglomérés. Vous voyez, par exemple, sur celui-ci qu'on voit devant nous, vous voyez, il est légèrement dessoudé et on voit qu'il y a deux couches. Hein, donc, on voit le strat, la strate qui fait que c'est un palimpseste. Là, on peut en être sûr. Hein, c'est fait de deux œuvres collées l'une sur l'autre. D'accord ? Donc, après, donc il a, grâce à ça, il a une épaisseur suffisamment intéressante pour pouvoir employer donc des instruments qui appartiennent au monde de la sculpture, c'est-à-dire la gouge. Voilà. Il utilisait la gouge et le cutter, essentiellement. Ce qui donne des stries, des bosses, des creux, tout un relief. Hein, qui apparaît là et qui évidemment émerge du carton, et suite à quoi il pigmente ces cartons avec des couleurs dont il est d'ailleurs très souvent à l'origine, c'est-à-dire il fabriquait lui-même ses pigments. Alors ça pouvait être des pigments faits de chicorée écrasée, malaxée, teintée, voilà. Il employait aussi, alors il était fasciné, Jacques était absolument fasciné par la production naturelle de la couleur, c'est-à-dire, d'abord il passait son temps dehors, quand c'était possible, hein, c'est-à-dire on le voyait émerger à partir du début du printemps jusqu'au début de l'hiver, il était sans arrêt à courir, alors les champs, les bois, les ruisseaux, et à aller aussi dans les grottes, parce que c'est le Lot, enfin voilà, il y a beaucoup de grottes là-bas, et effectivement, il m'a montré des photos. Ce qui était frappant, des photos donc de lieux naturels, c'est-à-dire des cavités, des grottes, qui ont à l'intérieur exactement les mêmes teintes c'est-à-dire les mêmes, comment dire, la même matière, et on voit que ces cartons sont complètement inspirés, on dirait des fragments de roche d'ailleurs, on dirait des fragments de terre, extrêmement tellurique.
De l'écorce, d'arbres, on dirait effectivement qu'il y a toute des éléments là, naturels qui s'agglomèrent.
Absolument.
Comme la nature peut
le faire.
Entre l'humidité,
absolument,
la sécheresse, le pourrissement même.
Voilà, absolument.
Il y a un certain...
La dégradation naturelle des éléments. On peut employer le terme de pourrissement. Il était assez fasciné par un artiste qui s'appelle Miguel Barceló. Miguel Barceló,
grand artiste
espagnol, absolument créateur, et aussi qui avait ce trait commun avec Jacques Roubi. Je pense que c'est pour ça que Jacques se reconnaissait dans cet artiste, d'expérimenter beaucoup. C'est-à-dire d'utiliser des matériaux, voilà, par exemple ce carton, qui aurait pensé que ce carton, qui est un matériau au demeurant tout à fait trivial et banal, deviendrait aussi magnifié, aussi sublime.
Et puis ça crée comme des paysages, enfin, complètement imaginaires et imprévus, peut-être d'ailleurs, que la nature parfois crée
elle-même.
Des formes,
voilà.
Des fois qui nous font activer des images aussi.
Des images, voilà. Et toute une histoire, parce que ce que vous voyez là par exemple, on est devant une œuvre qui est, comme toutes, hein, plus ou moins, à plus ou moins haute dose, si je puis dire, elles sont marquées par ce qu'on peut appeler des traces de désagrégation, de décomposition, mais qui restent esthétiques. C'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'il y a du beau là-dedans. C'est-à-dire qu'il fait émerger le beau, hein, de la matière qui, là, se décompose manifestement. Et c'est ça qui était très fort, c'est qu'on est dans une double, comment dirais-je, dans un double univers de perdition, enfin de décomposition, de désagrégation, d'où il fait émerger une beauté, voilà, de la beauté. Et ça, c'est un élément qui, moi, m'a longtemps fascinée. Et c'est une dimension. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'elles sont à la fois intemporelles, bien sûr, et aussi, je dirais, mystérieuses, parce que pour moi...
Donc c'est quand même abstrait, on peut le dire, pour les auditeurs qui ne voient pas forcément là tout de suite, mais
absolument,
qui auront l'occasion peut-être de venir ou de voir quelques images sur le site internet.
Absolument.
Mais effectivement, c'est de l'abstraction.
C'est de l'abstraction.
C'est du singulier, vous l'avez dit. Alors évidemment, en art, le terme singulier est un peu connoté, parce que ça peut faire penser à l'art brut, mais je ne sais pas si Jacques Roubi se revendiquait
non,
de ce style.
Non, absolument pas. L'art brut, si on reste dans une définition...
Parce qu'on peut penser à Dubuffet aussi.
Oui, c'est sûr. Mais là, en fait, si on reste dans une définition, je dirais, un peu puriste du terme art brut, bon, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, mais selon la définition de Christian Berce, qui fait connaître l'art brut à Paris, et qui était, entre guillemets, une des personnes très importantes sur ce plan-là, ce sont des artistes, les artistes dits art brut, qui n'ont jamais réclamé la reconnaissance. C'est-à-dire qui créent, mais qui restent inconnus, et qu'on découvre. Ce n'est pas eux qui vont au-devant des galeries. Voilà. En revanche, Jacques est venu au-devant de moi. Hein, donc on est, si vous voulez, si
oui,
on
mais
reste...
pas au début quand même. C'est-à-dire qu'il a été quand même découvert,
oui, il a été
par
découvert
Geneviève Bonnefoy, comme vous
c'est
l'avez
vrai.
Expliqué.
Mais
donc...
il avait exposé déjà. Hein. Il avait fait des choses. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Geneviève l'a découvert, parce qu'elle l'a découvert dans, je pense, dans une exposition locale, hein, du coin. Voilà, tout simplement. Mais il avait ce souci, et c'est bien pour ça qu'il m'a recontacté après. Hein, c'est-à-dire de continuer d'être, je dirais, montré. Voilà.
Donc mais, il aimait montrer ses œuvres.
Oui, alors, mais là aussi, quand il m'a contacté, et c'est là aussi où j'ai trouvé sidérant son message, c'est-à-dire que quand je l'ai appelé, parce que moi, je ne connaissais absolument pas cet artiste, bon, j'ai commencé par découvrir ses dessins, pas du tout ses cartons sculptés.
Donc du fusain, vous disiez ?
Non, ça, il ne le faisait plus, et ses fusains sont détruits complètement. Reste ses dessins exécutés au stylo à billes ou bien au rotring, voilà, à l'encre. Donc, ces dessins, ce sont ces dessins qui m'ont fait rentrer en contact visuel avec l'œuvre. Et quand je les ai vus, j'ai eu un choc. Je me suis dit, il y a quelque chose là, ça m'a énormément plu. C'est comme si j'étais devant, ça me faisait beaucoup penser à William Blake. Et des dessins très très forts, assez tourmentés, qui sont d'ailleurs assez... ils ne sont pas des dessins faciles, si
donc,
vous
voulez. Donc figuratifs, là.
Figuratifs pour la plupart. Pas tous, hein, mais beaucoup. Oui, là, on est dans la figuration.
C'est quoi, des paysages ou des personnages?
Des personnages, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de personnages, avec, dans un univers très, très organique. Plongés, par exemple, des hommes racines. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de corps emmêlés. Comme si, si vous voulez, Jacques avait un univers, et ça, là, pour le coup, on est vraiment dans le procès mélancolique, si vous voulez, c'est-à-dire des corps qui sont emmêlés, mais comme, si vous voulez, des corps entre la vie et la mort, ou bien morts dans des charniers. Voilà. Et là, on est vraiment dans un univers, si vous voulez, de très... Enfin, quand je vois ces dessins... Je me suis demandé d'ailleurs, la première fois que je les ai vus, si Jacques avait dans sa famille des personnes qui avaient eu l'expérience des camps. Bon, ce n'est pas le cas, mais justement, on est là dans la nécropole, si vous voulez, dans l'univers justement de souterrain, hein, tout à fait, entre la vie et la mort. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, une signature de l'univers mental de l'artiste. Hein. Voilà. Donc, entrer par les dessins, c'était rentrer par un univers assez dur qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup fait, beaucoup interpellé. Et je trouvais ça très fort.
Et en tant que psychanalyste, bon, je ne veux pas faire de raccourcis que vous n'allez pas forcément cautionner, mais c'est vrai que j'imagine forcément que vous vous intéressez à l'intériorité d'un artiste et ce qu'il a au fond de lui.
Alors, là, je vous dirais, j'aurais tendance à vous répondre très spontanément, non, je ne m'y intéresse pas. Je m'intéresse d'abord et avant tout à son œuvre.
Mais voilà. Qui révèle forcément
mais
des choses.
Mais avec Jacques Roubi, je n'ai pas du tout pu faire autrement, puisque vraiment l'homme qu'il était, son imaginaire, sa lucidité, son extrême lucidité, son extrême intelligence... Et son déchirement, intérieur.
Est-ce que lui disait quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il se confiait un peu sur des choses?
Je suis en enfer.
Mais il ne disait pas pourquoi.
Non, c'était plus fort que lui.
Donc c'est un peu cathartique. Enfin,
oui. C'était voilà. Je pourrais dire que pour lui, la création le tenait, hein, le tenait en vie. Voilà. Alors évidemment, quand il m'a donc confié son œuvre en me disant « Si vous ne l'acceptez pas, si personne ne l'accueille, je la mets à la déchetterie », j'ai bondi, évidemment, et une semaine après, j'étais auprès de lui avec mon assistante, et c'est là que je découvre en fait tout. Je découvre les cartons sculptés, je découvre... On va aller voir tout à l'heure ce qu'on appelle les feuilles d'acétate. C'est le troisième volet de son œuvre. Il y en a trois. Les cartons sculptés, les dessins et les feuilles d'acétate. Et je découvre aussi le catalogue de l'abbaye de Beaulieu avec des œuvres donc, de Jacques Roubi, puisque Geneviève Bonnefoy l'a fait rentrer dans les collections de l'abbaye, aux côtés de Han Tai, aux côtés d'Henri Michaud, aux côtés de Fernand Léger, aux côtés des grands artistes contemporains. Donc là... je découvre tout ça en même temps. Et je tombe sur un article de Geneviève dans le catalogue, qu'elle avait écrit pour le catalogue à propos de Jacques Roubi, en disant qu'il restait des œuvres somptueuses, donc des cartons sculptés, et qu'il fallait absolument les sauver. Et à ce moment-là, je dis à mon assistante, mais c'est formidable, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Et donc on a remonté donc, l'œuvre de Jacques Roubi à la galerie. Voilà.
Ça constituait à peu près combien d'œuvres?
Il y en a énormément.
Non, vous avez été dépositaire de l'ensemble?
Je suis, alors, pour l'instant, dépositaire de l'ensemble. Donc on est, si vous voulez, pour le moment, en pleine succession, hein, puisque la succession est encore ouverte, elle va terminer donc, en juillet. Donc ça, je ne peux rien dire de l'issue des choses. Jacques Roubi. Créait donc, si vous voulez, par terre, il était au-dessus de son carton, il ne créait pas à la verticale, il créait à l'horizontale, directement sur le sol.
C'est vrai qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'artistes qui aiment la matière, qui travaillent comme ça.
Oui.
Je pense à Pollock, bon, on absolument. Y pense tous, mais il y a aussi Soulage qui travaille comme
oui,
ça.
Oui, absolument. Ouais. Et donc, ça donne, alors, je reprends le terme qu'employait Bénédicte Philippe pour décrire ce qu'elle a tout de suite, quand elle a vu les œuvres, elle a dit, mais on dirait des plans-reliefs, c'est-à-dire des plans de ville hein, des plans de ville.
Oui, ça fait très topographique, tout
c'est
à fait.
C'est très topographique.
C'est exactement la suite qu'il y a derrière vous.
Absolument.
On pense à un vieux plan un peu jauni, d'une archive.
Une archive forte, hein, puisque on pourrait y voir des villes disparues, des plans de villes disparues. Hein, alors on peut voyager, du coup, hein, beaucoup. Il y en a des cartes auscultées qui font penser aussi à des cartes marines. Le terme revient souvent quand il y a des visiteurs. C'est une œuvre muséale. C'est une œuvre qui, d'ailleurs, si vous voulez, doit avoir sa place dans un musée, ce que je vais m'appliquer à faire.
C'était ma question, voilà. Peut-être plus tard, mais enfin, on fait une petite parenthèse.
Oui.
Est-ce qu'elle est déjà dans un musée, cette
Non, œuvre? Mais elle va l'être. D'accord. Oui, elle va l'être, puisque c'est sa place, si vous voulez. Elle a cette valeur, cette force. Et cette valeur, et il faut absolument qu'elle soit protégée.
Oui, voilà. Pas un musée,
je ne suis pas un musée, mais quand même, elles tiennent très très bien le coup, je veux dire, il n'y a pas de bouger, si vous voulez, alors que là, vous avez des pièces qui ont, dont vous voyez, qui n'ont pas loin de 30 ans. Hein, et elles n'ont pas du tout bougé.
Et comme c'est naturel, ça s'adapte peut-être à
l'hygrométrie. Oui, absolument.
Que, comme le voulait Jacques Roubi, finalement, ce sont des œuvres
qui
continuent de vivre comme la nature continue de s'adapter.
Vous avez absolument raison, puisque de temps en temps, avec des petites différences hygrométriques, au bout d'une semaine, le carton, et c'est là que j'ai découvert que le carton était un matériau vivant, le carton s'assouplit, s'humidifie, et ça sèche de nouveau, peu après, et donc a toute une vie propre qui n'altère absolument pas le pigment. Et c'est là où c'est fort. Il a quand même emporté quelques secrets dans sa tombe, je vais vous montrer tout à l'heure, donc les fameuses feuilles d'acétate. Régulièrement, le public, les visiteurs me demandent, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? Ça défie absolument les lois du matériau qu'il a utilisé. On les voit, on se dit, mais c'est impossible à faire. Pourtant, il l'a fait. Et il est parti avec le secret de fabrication. Voilà. Et je suis assez contente de ça, en fait. Puisque on ne peut pas tout savoir. Et c'est un mystère supplémentaire. J'aime beaucoup ça. Parce que c'est quelque chose d'unique qui lui appartient. Et qui, du coup, j'aime à penser, ou j'aime à le croire, que si on n'a pas la réponse, ça ne peut pas être reproduit. Voilà, personne ne peut s'en emparer pour faire comme lui, disons. Voilà. Donc ça reste un peu exclusif. Ça, j'aime beaucoup penser ça.
Oui, et puis ça rajoute évidemment un petit peu à l'idée de légende d'artiste.
C'est une véritable... Enfin, Jacobi, c'est vrai, c'est une histoire. Hein, parce que quand il nous a accueillis en 2012, quand on est venu dans sa maison, eh bien... Il avait préparé des combinaisons que revêtent les dits techniciens ou techniciennes de surface, des combinaisons en un tissé. Et on était trois personnes et on a dû les enfiler à sa demande, car il ne voulait pas qu'on soit en contact direct avec les cartons sculptés. Il avait peur qu'on se salisse qu'on soit contaminé par je ne sais quoi. Je vais vous dire, quand je suis arrivée, j'étais sidérée. Les cartons sculptés étaient dehors et il a déménagé la veille. Ah, en pleine nature, voilà. Il y avait une bâche, bien sûr, qui les protégeait, mais c'est pour vous dire qu'il ne les voulait plus chez lui. Voilà. Alors, ces cartons, quand même, je dois rendre hommage, en parlant, au frère de Jacques Roubi, qui s'appelle Michel Roubi, qui vit à Cahors, et qui a permis que ce qui restait de l'inondation de 2007... donc des œuvres qui ont été sauvées, ce qu'il en restait, eh bien, soit stocké chez lui, dans sa maison. Et c'est grâce à Michel que l'œuvre, du coup, a pu être stockée pendant 5 ans, jusqu'à ce que je les redécouvre, car Jacques ne les voulait pas chez lui. Donc, elles étaient chez son frère, et après, quand elles sont revenues chez lui, c'est là où elles étaient dehors. Voilà, ils les avaient mis dehors, parce qu'ils ne le voulaient pas à l'intérieur.
Alors, c'est une histoire absolument fabuleuse. Moi, je suis accrochée à vos mots depuis le début. Je vous propose, Isabelle, qu'on se lève ensemble et qu'on fasse quelques pas donc dans votre galerie, bien sûr, et qu'on aille voir les acétates, peut-être.
Oui,
donc, ce qu'il a...
Voilà, là, il faut un petit exercice de descente en sous-sol.
Alors, le ventre de la galerie,
voilà.
C'est ça?
Ça, c'est une partie du ventre. Vous avez une petite salle d'exposition. Après, je vous montrerai l'autre partie qui est de l'autre côté. Alors, voyez... Ça, ce sont donc des feuilles d'acétate.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement si tout le monde ne sait pas, une petite explication rapide.
C'est le mot savant qui désigne les feuilles qu'on utilise en radiologie à l'hôpital, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une feuille un peu gélatineuse, c'est une gélatine rigide, solide, donc une feuille de radio, voilà, sur lesquelles, là, vous êtes en face de ce que Jacques appelait un transfert, c'est-à-dire donc des photos de journaux. Hein, alors, il avait cette habitude de collectionner les journaux et ensuite de les mettre dans des sacs plastiques et d'aller enterrer ces sacs dans la terre pendant quelques mois. Et ensuite, il allait les déterrer. Ça, c'est aussi une technique inspirée de Miguel Barceló, qui allait, lui, il le faisait avec des papiers à dessin, qu'il enterrait. Alors lui, il allait en Afrique les enterrer, et il allait régulièrement les déterrer, parce que les feuilles étaient mangées par les fourmis, et ça donnait des dentelles, ou des trous, en fait une espèce de trouage aléatoire, voilà, qui dessinait des formes, et Barceló les reprenait pour travailler. Voilà, ça c'est une anecdote au passage, mais c'est pour vous dire que ce sont des artistes qui, comment dirais-je, qui expérimentent, qui sont sans cesse en train d'expérimenter. Donc là, on a des transferts à partir donc de feuilles de journaux. Vous voyez, ça c'est une femme répétée à la manière de Warhol. C'est donc ces feuilles de journaux, il les appliquait sur la feuille d'acétate, et c'est là que le mystère commence. Comment se fait-il qu'il y ait eu une telle pénétration, une telle adhérence donc, de la feuille de journal sur la feuille d'acétate, au point qu'on ait à faire un véritable transfert qui traverse le temps, qui ne s'abîme pas, et qui tient le coup, c'est-à-dire qui est, comment dire, qui fait l'œuvre.
Et fait. Alors, cette couleur, en fait, est due à quoi aussi est-ce que la couleur est prévisible dans ce cas-là?
Non, pas du tout, parce que là, on voit qu'elle est presque, vous savez, c'est presque un blue wash, c'est-à-dire que c'est vraiment passé, on ne sait pas à quoi, peut-être ciré. Moi, je crois qu'il y a des endroits où
on dirait que ça ressemble, la matière ressemble à de la cire, et en même temps, on a l'impression qu'on est face à une peinture aussi.
Absolument. Moi, je crois qu'il l'utilisait aussi. Hein. Je pense qu'il y a de l'acrylique qui se mêle de tout ça, qui vient faire une sorte de lavis au-dessus des visuels, en fait, et qui permet la fixation. Mais le procédé en lui-même, technique réelle, je ne peux absolument pas le restituer. Je ne le connais pas.
Il y a une certaine magie de la matière, ce que recherchait aussi Jacques Roubi,
absolument,
comme Barceló,
oui,
en faisant confiance totalement finalement
au
support et à la nature, c'est-à-dire à ce côté un peu sacré aussi peut-être de la nature, parce que le fait d'enterrer, de déterrer, le geste n'est pas anodin,
absolument.
Voilà, c'est ce que j'allais
c'est
dire, ça ressemble à un rituel pour arriver quand même à au mystère de la nature.
Absolument, mais vous voyez que dans enterrer et déterrer, hein, on a bien un des traits de la personnalité de Jacques Roubi. Alors ici, ce sont d'autres techniques, toujours le même support, toujours la feuille d'acétate, mais travaillées au fusain et à l'acrylique. Si vous regardez bien, on voit un léger effet donc, de gravure, comme si, si vous voulez, il y avait une sorte de relief extrêmement subtil. Parce qu'il travaillait aussi avec des pierres. Et il passait son fusain sur l'acrylique de manière répétée, comme une meule, si vous voulez. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, le fusain pénétrait la matière de la feuille d'acétate. Et là, on a vraiment des effets extraordinaires. On a des effets, vous voyez, de brossage, des effets de relief. Pour arriver à obtenir ce noir extraordinaire, c'est un noir extrêmement profond qui fait penser au noir de Soulages d'ailleurs, très brillant, assez fascinant d'ailleurs, hein, assez puissant, très profond, dans lequel on a l'impression d'être aspiré. J'ai beaucoup de mat, un noir semblable mais mat, et là j'ai exposé pour la première fois deux acétates que j'avais jamais montrés.
Oui, parce qu'il faut repréciser que cette exposition s'appelle Jamais Vu, et que donc effectivement on est quand même face à des œuvres de Jacques Roubi que n'avaient jamais été exposées nulle part.
Hein. Nulle part, oui. Absolument. Et que le public peut découvrir pour la première fois. Donc ici vous avez encore une fois des effets de brossage, il y a des traces, il y a des comme si on avait passé un instrument plusieurs fois au même endroit. C'est presque labouré, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme des sillons, hein, extrêmement subtils. Des griffures aussi, là, on dirait.
Oui,
c'est-à-dire qu'il fallait résister à Jacques.
On sent un labeur, hein, quand
oui,
même.
Oui, oui, oui. Et une mise à l'épreuve. Et une mise à l'épreuve du support. C'est-à-dire que c'est vraiment le poinçon de la nature. Voilà, la marque de la nature. Voilà.
Là, vous avez... on est revenu dans la pièce principale.
Là, vous avez ce qu'on appelle les grands cartons sculptés. Ce sont vraiment des pièces très, très particulières qui sont imposantes, qui font penser... Alors moi, j'ai l'impression d'être dans un type, dans une ambiance tout d'un coup indienne. Là, on dirait un morceau de tipi indien pendu. On dirait aussi des peaux qui sèchent, en train de sécher, tendues. Voilà. On dirait là une matière de lave-en-fusion. Voilà, après une éruption, ou de la roche marquée par l'éruption, vraiment, ou par, regardez là, des fossiles, avec des effets de matière très très forts. Cela, c'est vraiment la première fois que je les montre, avec cet effet de matière très paillée, comme une paille, qui, sur de la terre en fait. Et c'est vraiment un artiste de la nature du dehors. C'est vraiment ça.
Alors, ce qui est très poétique ici, je trouve, c'est que ce sont les couleurs. C'est-à-dire qu'on est un peu moins dans les ténèbres qu'en dessous, avec les acétates.
Les acétates sont très sombres, comme
ici,
vous l'avez vu.
Ici, il y a beaucoup de pastels, c'est quand même une œuvre plus joyeuse, entre guillemets.
Plus lumineuse. On retourne.
C'est une galerie avec plein de salles secrètes, en fait.
On voyage. Là, vous êtes devant une espèce d'origami. Il a empoigné des feuilles de dessin déjà dessinées. Il les a découpées au ciseau de manière complètement aléatoire. Et il les a assemblées entre elles. Voilà. Et il m'a envoyé ça dans une boîte à chaussures. Alors, voilà, il m'a fait ce cadeau et j'ouvre donc la boîte à chaussures. Et comme cette œuvre, si vous voulez, était compacte à l'intérieur, ça m'a sauté comme un diable au visage. Et après, j'ai vu ce que c'était, une sorte de guirlande de dessin que j'ai fait monter et coller, donc, comme ceci. Voilà, qui donne à l'arrivée quelque chose de très impressionnant.
Et ça fait beaucoup penser à des marionnettes de théâtre asiatique, balinaises, exactement.
Absolument.
Moi, j'ai l'impression, c'est juste un point de vue très personnel, mais on retrouve quand même du dessin très classique.
Oui. Oui. Alors, Jacques était un dessinateur au départ, quelqu'un qui faisait beaucoup de caricatures. Il aimait beaucoup dessiner des visages, dans les tordre, les caricaturer vraiment. Et il a continué de dessiner après, c'est-à-dire c'est la seule chose qu'il a continué à faire, c'est le dessin, après qu'il m'ait confié l'œuvre. Voilà, parce qu'il appelait ça d'ailleurs ses siestes. Les dessins, c'était ce terme, j'aime beaucoup l'employer, ça vient de lui, hein, vraiment, car ça le détendait énormément, et ça fait penser, tout à fait, si vous voulez, à un dessin automatique, comme on parlait de l'écriture automatique des surréalistes. C'est-à-dire qu'il prenait sa plume, et il la laissait aller sur la feuille, et dans un état un peu, si vous voulez, de demi-sommeil, il dessinait, et il ne savait jamais ce qui allait sortir. Et ça le détendait énormément, ça lui faisait beaucoup de bien. Et ça, il fallait qu'il le fasse. Il l'a fait jusqu'au bout, quasiment. Des hommes animaux emmêlés, une tête de minotaure, des racines qui émergent, des tubéreuses.
C'est splendide, il faut venir voir vraiment pour s'en rendre compte.
Oui.
J'ai quand même envie, Isabelle, de faire une autre parenthèse, mais... Ici, on est dans un endroit complètement atypique. Il faut préciser quand même aux auditeurs qu'on est donc toujours dans votre galerie, évidemment, mais on a descendu un étage. Et alors là, on est au milieu de très vieilles pierres. On a l'impression qu'on a descendu une tour de donjon et qu'on se trouve dans une salle très voûtée de château.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est, là dans, ce qu'on appelle la salle voûtée à la galerie. Donc c'est une cave, une ancienne cave. On est dans les sous-sols qui ont 250 ans. Voilà. Donc là, on a affaire, et d'ailleurs, on voit comment sont faits les sous-sols et les fondations. En fait, on est vraiment dans les fondations de l'immeuble. Voilà. Et c'est rare de pouvoir apprécier, si vous voulez, la taille des murs de pierre, des murs de pierre de taille. Là, vous voyez que c'était quand même des murs qui ont presque 50 cm de largeur, avec... comment dire, tout le côté brut, justement. Et c'est vrai que l'œuvre de Jacques y est chez elle, on pourrait dire.
Oui, parce qu'on parlait évidemment de visiter un peu les entrailles de la terre tout à l'heure.
Voilà.
On visite les entrailles de votre galerie qui porte en elle une charge historique très intéressante.
Oui.
Et Jacques Roubie connaissait cet endroit, j'imagine.
Alors, il ne l'a jamais vu.
Ah. D'accord.
Il n'a jamais voulu. Et la seule fois où il est descendu sur Paris et où j'aurais pu l'accueillir, j'étais ailleurs. Voilà, on s'est loupé. Il était bien sûr invité à tous les vernissages. Il ne venait jamais.
Voilà. Alors, on entre du coup dans la salle voûtée où vous exposez donc encore quelques œuvres, des cartons sculptés et un grand dessin découpé
un grand
également.
Dessin qu'on appelle entre nous, hein, ça c'est le nom de code pour le décrire, c'est le mandala. Voilà, qui est, reprend la même technique, c'est-à-dire que Jacques, ça fait partie des deux dessins qu'il m'avait envoyés par la poste, donc que j'ai reçus dans ces fameuses boîtes à chaussures, découpage, collage, ça c'est lui.
Isabelle, ici c'est la dernière salle, on a fini ce tour ensemble.
Ce parcours, oui.
Je pense qu'effectivement il faut venir surtout découvrir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on arrête
Alors,
ce petit tour?
J'ajoute que l'œuvre de Jacques Roubi est vraiment une œuvre au sens profond du terme, au sens fort du terme, de par, bien sûr, sa quantité, de par sa force, de par l'inspiration qu'il apporte et qu'il a portée. Voilà, en général, quand on la découvre, je suis très étonnée parce que elle émeut et bouleverse et touche toutes sortes de personnes, et elles traversent les âges. Il y a des jeunes gens de 18-20 ans qui sont bouleversés devant, comme des personnes qui en ont 70, 75, 80 ans. Et ça touche absolument tout le monde. Quand les gens sont là, en général, évidemment, ils ne connaissent pas, ils sont absolument surpris. Bouleversé, c'est, il n'y a pas d'autre terme. Et je fais ce travail en espérant que, la faire connaître de mieux en mieux et de plus en plus, ce qui est de longue haleine, évidemment. Mais j'insiste, voilà, je continue donc à la faire connaître.
Vous avez vraiment raison. Merci beaucoup, Isabelle Floch. Donc je rappelle que vous êtes la directrice et la fondatrice de cette galerie, La Ralentie, à découvrir donc au 22 rue de la Fontaine au Roi. Évidemment, l'exposition en ce moment, donc on vient de parcourir ensemble avec cette histoire extraordinaire de ce grand artiste qu'il faut donc découvrir, dont vous défendez vraiment, je pense qu'on peut utiliser ce terme, l'œuvre, le travail, pour que effectivement institutionnellement il soit maintenant reconnu et montré aussi dans un musée. Donc Isabelle, en tout cas, en attendant, les Parisiens et les touristes peuvent venir ici, évidemment, pour visiter. Alors, c'est ouvert, c'est libre en plus,
oui.
L'entrée est libre.
Je peux donner les heures?
Bien sûr.
Alors, c'est du jeudi donc au samedi de 14h à 19h et ça dure jusqu'au 14 juin. Voilà.
14 juin, donc l'exposition s'appelle Jamais vu. Et évidemment, il y a aussi des choses à découvrir sur le site internet de la galerie pour en
Absolument.
Savoir un peu plus sur Jacques Roubi,
oui.
Donc ça s'écrit
R-O-U-B-Y.
Voilà.
Voilà. Et il y a un site, à partir du site de la galerie, on peut accéder donc au site de l'artiste et découvrir beaucoup mieux qui il est.
Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion, votre métier, et puis surtout, c'est très intéressant de vous entendre, parce que je pense qu'à travers cette conversation, on a bien compris que le travail d'un galeriste, c'est vraiment l'accompagnement, la défense de l'art, sa promotion, à titre personnel, quand on est intimement lié à quelqu'un, évidemment, mais aussi pour défendre des artistes qui, parfois, tout seuls, n'ont pas les moyens.
Voilà.
Donc ça, c'est vraiment très intéressant.
Voilà.
Merci, Isabelle.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Julie Chaise-Martin.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.